Vous écoutez RTL. RTL, première radio de France.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Bonjour madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue sur RTL, on est en direct. Bonjour Clémentine.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
On est ensemble jusqu'à 14h30 avec ce grand quiz des histoires de France. Vous inscrirez simple, 32-10, tout de suite et en direct si vous le désirez. Mylène et Agathe sont là, elles vous attendent. Vos réflexions, vos commentaires, votre inscription, vous pouvez. Et notez que le 1er juillet, nous sommes à Marseille. Alors si vous souhaitez, si vous habitez Marseille ou sa région, que vous voulez jouer avec nous en direct, eh bien vous faites le 32-10 maintenant ou RTL.fr, vous venez jouer avec nous en direct, c'est le mondial de la Marseillaise à pétanque.
Oh, on va bien trouver deux boulistes qui veulent jouer avec nous.
On n'est pas à l'abri.
L'histoire de Marseille.
L'histoire des boules et de la pétanque. Les piétanqués, comme on dit. Aujourd'hui, livres historiques Larousse, ordinateur portable. Il y aura également un séjour pour 4 personnes au prieuré de Saumur, membre de la chaîne d'hôtels Charme Symbole de France. Alors c'est très joli, c'est à côté de Saumur, au cœur du pays des châteaux, on va dire, où vous irez vous balader, évidemment la Loire et les îles à l'infini. Enfin, c'est un endroit magnifique, on l'a mis sur RTL.fr. On vous souhaite vraiment ce prieuré hein, pour aller passer un séjour pour 4 personnes. Alors aujourd'hui également un bonus qui permettra à nos amis de pouvoir l'utiliser quand ils le désirent.
Oh là là, je crains le pire. Là, la semaine dernière, on a eu droit à la
Basile.
La marche des canards, oh là là, oh là là.
Aujourd'hui, Thierry s'est inscrit avec sa fille Mathilde. Ils habitent tous les deux Dijon. Bonjour Thierry.
Bonjour Laurent, bonjour Clémentine.
Bonjour Thierry.
Thierry, il paraît que vous êtes un auditeur assidu du Grand Quiz. Hein.
Ah oui, oui, oui.
Ah, sont nos préférés.
Oui.
Quelle est votre période de l'histoire préférée, justement, Thierry?
J'aime bien tout ce qui est antiquité.
Mais quel type d'antiquité?
Grecque, égyptienne.
D'accord.
Ah oui, on a déjà eu le bonus Basileus la semaine dernière avec des bussins magnifiques. Hein. On aurait dit la musique de Bénure, c'était grandiose.
Et alors là, on va voir ce qu'on va faire, mais Mathilde est avec nous, c'est votre fille Thierry. Bonjour Mathilde.
Bonjour Laurent et Clémentine.
Ah, bonjour ma cocotte.
11 ans Mathilde, c'est bien ça hein?
Oui.
En 6e. Et alors, quelle est la période de l'histoire qui t'intéresse?
J'aime bien l'antiquité grecque et la mythologie.
Comme papa un peu, hein, c'est ça hein?
Oui.
Bon alors, bienvenue à tous les deux, on te souhaite tout Mathilde, évidemment les Larousse, l'ordinateur, le séjour pour 4 personnes, et voici donc vos 3 questions pour obtenir ce bonus. Alors vous habitez Dijon.
Oh là là, mais qu'est-ce que vous allez nous avoir trouvé?
Là il y a l'angoisse monte, écoutez, il y a la musique d'angoisse. Vous habitez Dijon, donc il faut savoir que Rameau est né à Dijon.
Ah, c'est bon signe.
Donc c'est un bonus Ramolus, écoutez.
Oh, magnifique. Un peu rapide, si je puis me permettre, hein, comme rythme. Mais enfin, ça vaut vraiment la bande à Basile. Écoutez, oui, je vous vraiment décerne un satisfecit.
Aujourd'hui, c'est le bonus.
Ce bonus Ramolus, très bien.
Rameau est tourné à Dijon. On a vraiment, c'était pas simple. Je peux dire qu'avec Claude et Clem, on a cherché.
Ah, oh, j'ai du mérite, hein, je vous jure. Bonus Ramolus, c'est n'importe quoi.
Est-ce que vous êtes prêts, Thierry et Mathilde?
Oui.
Alors, on y va pour le bonus, les amis. Voici votre première question. Ancien résistant, il fut après la guerre député maire de Dijon, votre ville, et a donné son nom à une célèbre boisson. Qui est-il?
Kir.
Oui,
Kir, bravo, le chanoine Kir. Écoutez bien, maire de 1945 à 1968, c'est un personnage haut en couleur qui n'hésitait pas à se coiffer d'un képi d'agent de police pour faire lui-même la circulation devant la mairie.
En aube, j'imagine.
Voici votre deuxième question. Fils d'Osiris et d'Isis. Il est le dieu faucon et l'une des principales divinités égyptiennes. Qui est-il?
Horus. Oui, bravo.
Comme quoi, vous êtes spécialiste de l'Égypte. À qui doit-on le récit légendaire de l'Iliade et l'Odyssée?
Homère.
Bien joué.
Allez, bonus Ramolus, c'est parti.
Vous avez votre bonus Ramolus. Donc ça va être parfait pour vous l'utiliser à votre gré, évidemment, quand vous le désirez. Ils sont avec nous, Thierry et Mathilde, à Dijon. Ils jouent le père et sa fille. Ah, au fait, Mathilde, t'as souhaité bonne fête à papa?
Oui.
Bon, vous avez raison, Laurent. Là.
Tu peux lui faire en direct sur l'antenne d'RTL. Vas-y, va, ça va servir à tous les papas. On t'écoute, Mathilde.
Bonne fête, papa.
Ça, c'est bon. Eh, bonne fête à tous les papas. Je fais une bonne fête à mon coq, moi aussi.
Et au mien également.
On va se gêner. Bonne fête à tous les papas aujourd'hui. C'est la fête, les garçons. On se retrouve dans un instant sur RTL, le grand quiz. On joue avec Thierry et Mathilde qui sont à Dijon. À tout de suite.
RTL, Laurent Boyer,
le grand quiz des histoires de France.
Avec Mathilde qui a 11 ans, qui est en 6e, et son papa Thierry. Ils habitent tous les deux à Dijon. Et c'est Mathilde qui va ouvrir le bal. Bon, Mathilde, comment ça va? Bien, ça va, t'es prête? Trois questions, tu le sens bien?
Oui.
Alors on va y aller, Mathilde, bonne chance, écoute bien. Quel pays possède le plus grand camée antique connu? La France ou l'Italie? Alors ne t'inquiète pas, Clémentine va te rappeler ce qu'est un camée.
Oui, un camée, c'est une technique de gravure utilisée sur des matériaux présentant des strates de couleurs. Alors on en fait sur différents types de pierres, sur de la sardonyx, sur du verre, sur des coquilles.
Voilà. Alors à ton avis, quel pays possède le plus grand camée antique connu? La France ou l'Italie?
La France.
Mais voyons, mais bien sûr. Est-ce que tu crois qu'on va perdre une occasion de faire cocorico en disant que c'est nous qui avons le plus grand camé du monde antique, hein? Exactement.
Ça mérite ça.
Voilà, ça mérite quelques bus.
Eh bien oui, c'est la France qui possède le plus grand des camés antiques connus à ce jour. J'ai bien dit camés antiques. On appelle d'ailleurs ce camé le grand camé de France. Et on peut le voir au cabinet des médailles qui se trouve à la Bibliothèque nationale rue Richelieu à
oui,
Paris.
Oui, alors Laurent, effectivement, faut pas perdre une occasion de souligner la richesse de notre patrimoine. Et en l'occurrence, eh bien ce camé, donc cette pierre gravée, eh bien elle fait 31 cm de hauteur, 26 cm de large. Il est en sardonyx et c'est 5 couches de couleurs différentes. Vous imaginez ça? Mais faut aller le voir.
Hein. Dites-moi, Clémentine, ça n'a rien à voir avec ces camées que nos grands-mères portaient, vous savez, en broche, là. Comment cette merveille est-elle devenue française?
Oui, Laurent, sauf camée, si là. Votre grand-mère portait un camé de 30 cm de long sur son corsage.
C'est une médaille énorme.
À mon avis, c'est un peu lourd. Alors, en fait, on pense que c'est une œuvre d'art d'origine romaine, qu'elle a été emportée à Byzance, et c'est sans doute Baudouin II, empereur de Constantinople, celui-là même qui a vendu la fameuse couronne d'épines du Christ à Saint-Louis, qui était un roi un petit peu mystique et gogo qui achetait toutes sortes de choses, et bien Baudouin lui a vendu le grand camé, et ce camé, eh bien, il apparaît en 1279 dans les tout premiers inventaires du trésor de France.
Bah, dites-moi, Clémentine, depuis lors, en fait, il n'en a pas bougé. Il n'a même pas été détruit à la Révolution comme l'ont été tant d'œuvres d'art. On en a beaucoup parlé.
Il a beaucoup bougé, Laurent, en fait. Il a été gagé, il a été volé. Sous la Révolution, le roi le donne au cabinet des médailles. Il a été volé en 1804 et retrouvé en 1805, un peu comme la Joconde.
Dites-moi, mais qu'est-ce qu'il représente au juste?
Alors, c'est une composition assez complexe. Il représente 24 figures. En fait, ce camé représente l'apothéose d'Auguste et il aurait été commandé par Antonia, la mère de Germanicus, pour affirmer la légitimité de son fils et la continuité dynastique.
Moins connu que la Joconde, c'est pourtant un trésor unique au monde quand même. On a beaucoup de chance de le posséder.
On a beaucoup de chance de posséder ça. Je tiens à le dire à nos auditeurs, le grand camé de France est une merveille du monde antique et c'est chez nous, rue de Richelieu, qu'on se le dise. Voilà.
Bravo Mathilde, une bonne réponse. Voici ta deuxième question, Mathilde. Quel objet appelle-t-on un émigrant ou une émigrette sous la Révolution française? Cet objet, c'est une barque ou un yo-yo? Et Clémentine va te rappeler ce qu'est un yo-yo.
Ah, vous êtes caustique, vous.
Non, pas du tout. Taquin.
Attention,
certes.
Ça va se payer très cher, tout ça.
En camé.
Un yo-yo.
Oui,
oui, bravo. Eh oui, c'est
alors Clémentine, c'est quoi ce yo-yo?
En réalité, ça ne s'appelait pas encore un yo-yo, Laurent. Hein. Alors, en 1789, les femmes portaient dans toutes les promenades ce jouet que l'on appelait donc un émigrant ou une émigrette.
Alors, comme les migrants s'éloignaient et se rapprochaient à volonté de la main de la personne en fait, qui la tenait avec adresse, on lui a donné ce nom. Mais alors, cet objet a-t-il pour autant été inventé sous la Révolution?
Non, pas du tout. Eh bien, figurez-vous, Laurent, pour votre édification personnelle, il semblerait que le yo-yo, c'est indispensable. À votre culture générale. Il semblerait que le yo-yo soit l'un des plus vieux jouets au monde avec la toupie. En tout cas, on sait qu'il était connu en Grèce il y a plus de 2000 ans. Et en revanche, ce sont bien les émigrés de retour d'Angleterre qui le popularisèrent chez nous. Les Anglais d'ailleurs appelaient ça un bandalore, figurez-vous.
Et ce nom bizarre alors,
c'est pas indien, contrairement aux apparences. Ça viendrait de la langue parlée par les Philippins, le Tagalog. Et le nom de yo-yo a été déposé bien plus tard, en 1930, par un Américain, un certain Donald Duncan, qui va populariser le yo-yo à grande échelle.
Ah, d'accord, vous savez sans doute qu'il y a de nombreux types de yo-yo, en tout cas des techniques différentes pour le manipuler.
Oui, ça, je ne suis pas très doué d'ailleurs, je dois dire. Mais enfin, si vous voulez en savoir plus sur le sujet du yo-yo, je vous invite à consulter le site de France Yo-Yo Association. Et oui, ça existe. Organisme officiel rattaché à la WYYA, World Yo-Yo Association.
Ça, c'est pas énorme.
Mon vieux, ça existe.
Non, mais ça existe. Mais faut écouter.
En tout cas, souvenez-vous de ça, l'émigrette qui vient, qui va, qui quitte la France, qui revient en France, ou les migrants.
D'où le yo-yo.
C'est le yo-yo sous la Révolution.
Troisième question pour toi, deux bonnes réponses, bravo Mathilde. Qui composa pratiquement toutes les paroles des opérettes d'Offenbach? Ludovic Halévy ou Mérimée? C'est pas facile, ça. Hein. Qui composa pratiquement toutes les paroles des opérettes d'Offenbach?
Halévy.
Bravo! Bien joué. Mais oui!
Clémentine,
alors, bien sûr. Ah, je suis l'époux de la reine, époux de la reine, époux de la reine. Poux de la reine, poux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas, Ménélas. Et je crains qu'un jour Hélène, je le dis tout bas.
Vous écoutez The Voice, Clémentine sur RTL.
Je le connais entièrement, la belle Hélène.
Oui, c'est pour ça. C'est bien pour ça que j'en prends la main. Il pleut dans le studio.
Oh, la peau de vache. Nourri une vipère en mon sein, vraiment. C'est pas malheureux.
Alors, dis-moi, Clémentine, on sait que la musique est d'Offenbach, mais il faut aussi rendre justice à son grand ami Halévy, quand même, mort il y a à peu près 104 ans. Enfin, c'était le 8 mai 1908,
oui.
C'est ça.
Et alors, Halévy, évidemment, moins connu qu'Offenbach, naturellement, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un émigré de la seconde génération. Le père d'Halévy était bavarois, mais lui est né à Paris en 1834. Il devient jeune homme à une époque où de nombreux musiciens d'origine germanique viennent faire carrière en France. Vous voyez, les Offenbach, les Meyerbeer, les Wagner, tous ces messieurs, tous ces grands compositeurs, ils sont venus et ils ont vécu à Paris.
La vie parisienne, et tout, écoutez ça. C'est le grand-père de Ludovic, Élie Lévy, qui est venu de Bavière à un moment en France et proclamait les droits de l'homme. C'est un juif allemand et il prend comme patronyme le nom d'un musicien andalou du XIIe siècle qui s'appelle Yehuda Halévy.
Eh oui, vous saviez ça, que Halévy, ça venait ça, d'un, ce grand musicien andalou du XIIe, Yehuda Halévy. Et Ludovic Halévy était parti pour passer sa vie dans la fonction publique, mais comme il fréquentait les coulisses des théâtres avec son père et son oncle compositeur, il s'est mis à aimer ça. Et dès 1855, il va collaborer à une petite opération avec Offenbach, Bataclan, puis à une autre avec le duc de Morny, figurez-vous, monsieur Chauffleury.
Et c'est avec la belle Hélène, qui fait un véritable triomphe en 1865, que ses dons de librettiste vont exploser. En fait, c'est le premier grand succès du trio super efficace Offenbach, Halévy et Meillac, qui allait en produire bien d'autres. D'ailleurs, la vie parisienne en 1866, la grande duchesse de Gerolstein en 1867 et évidemment la Périchole en 69.
À chaque fois, c'est la patte de ces trois messieurs, Offenbach, Halévy, Meillac. Et alors, derrière des apparences légères et comiques, les paroles d'Halévy portent toujours plus ou moins un message. Par exemple, il grandira car il est espagnol. Hein, ça, c'est une allusion aux promotions rapides dont bénéficiaient les Espagnols à la cour de France grâce à l'impératrice épouse de Napoléon III, elle-même espagnole, Eugénie de Montijo.
Et alors, ce roi barbu qui s'avance là, c'est une allusion à Léopold.
Barbu qui s'avance, c'est Agamemnon.
Alors là, c'est une allusion, pas Agamemnon, mais à Léopold, roi des Belges.
Tout à fait, c'était une caricature du roi des Belges. Alors, dans la vie parisienne, Offenbach et Halévy épinglent la frénésie des financiers et des nouveaux riches avec des chansons. Hein, la fameuse, vous la connaissez.
Je vous écoute.
Et j'habite Rio de Janeiro, plus vite aujourd'hui de Janeiro, Paris, je te reviens encore. Voilà, ça, c'est pour épingler les nouveaux riches, si vous voulez. Et puis, il y a aussi dans la vie parisienne les nouveaux riches avec je vais m'en fourrer jusque-là. Vous connaissez ça? Portez ma lettre, ramettez-la. Bon, ça, c'est. Là, à nouveau, il épingle les nouveaux riches. Hein.
Vous écoutez bien.
Et puis, il y a la grande-duchesse de Gerolstein.
Grande-duchesse de Gerolstein, il dénonce la folie guerrière de l'Europe.
Voilà, donc il y a toujours, on croit que c'est que des bluettes un peu légères, mais il y a toujours un message derrière. Et alors, Halévy, d'ailleurs, fut pas simplement un parolier drôle et léger, comme des bulles de champagne. Il fut aussi un homme de conviction qui s'engagea pour les droits de l'homme avec Zola et Clémenceau. Et à la fin du siècle, il devint l'un des partisans les plus acharnés de la révision du procès de Dreyfus.
Et alors, écoutez bien, par bonheur, il aura vu la réhabilitation de Dreyfus en 1906, avant sa propre mort 2 ans plus tard, dites donc. C'est pas mal. Alors, 3 bonnes réponses, dis donc, c'est gagné déjà, Mathilde.
Et voilà, sans Mathilde. Même y penser. Ouh.
J'ai perdu Mathilde.
Bon. Oui.
Dis donc, Mathilde, t'étais un
t'es
petit
t'es toujours
peu...
là, Mathilde, hein, ça non. T'intéresse à Lévy Offenbach et la
tu
grande duchesse de Gerolstein.
Elle faisait des pas chassés en écoutant Clémentine chanter. 30 secondes pour la finale.
Sur le bonus et... Ramolus, sans doute.
Les livres historiques, Larousse gagné. Bravo, Mathilde. 2 questions pour ton père dans un instant. Juste dans un instant, après ça.
Merci.
RTL.
Laurent Boyer, le grand quiz des histoires de France.
Avec Thierry et sa fille Mathilde, qui a fait un très joli parcours. Elle a été brillante, votre fille, hein, Thierry?
Ah oui.
Là, elle est très bien.
Fière d'elle.
Trois questions, 3 bonnes réponses. Alors attention, vous allez essayer de faire pareil avec les 2 questions qui arrivent. Mais il n'y a pas d'enjeu, là, tout est gagné déjà. On est prêts?
Oui.
Alors on y va, écoutez bien. Comment se nomme l'ordre créé par le général de Gaulle dès 1940? Il crée un ordre, De Gaulle. Le sien, en fait.
RPF ?
Non, ça, c'est un parti politique créé en 1947. Ouais. Mais il a créé un ordre, une distinction, un peu comme la Légion d'honneur.
Équivalent.
La Croix de Lorraine ?
C'est l'ordre de... Là.
Non, bah non, c'est trop dedans, c'est plus. Hein. C'était l'ordre de la libération.
Mais vous le savez, Thierry.
Oh là là,
comme le chef des Français libres ne pouvait décerner... Vu qu'il ne pouvait pas décerner la Légion d'honneur, il allait donc créer une nouvelle décoration. Et le 16 novembre 1940,
oh, je le connais ça aussi. Hein.
De Gaulle signe à Brazzaville, capitale de la France libre naissante, l'ordonnance numéro 7, créant l'ordre Briavastère, l'ordre de la libération qui récompensera ceux qui se seront signalés dans cette haute et âpre campagne pour la libération de la France. Excusez-moi.
Qu'est-ce que c'est?
Non, écoutez, se sont signalés dans la haute et âpre campagne pour la libération de la France.
Laurent, c'est nous qui devrions commenter le défilé du 14 juillet.
Ouais, je pense.
Ah, ça serait autre chose, hein, ça serait plus viril. Je vous jure. Alors, au départ, le général de Gaulle, il pensait qualifier les titulaires de cette décoration de croisés de la libération. Il pensait que ses membres étaient une sorte de nouvelle chevalerie regroupant, comme au Moyen-Âge, les serviteurs d'une même cause, d'un même idéal. Mais assez vite, le terme a paru un petit peu emphatique et surtout quelque peu désuet. Donc, on va tomber d'accord sur le terme de compagnons de la libération.
Voilà. Et alors, les premiers compagnons, au nombre de 5, sont nommés le 29 janvier 41 et forment le premier conseil de l'ordre. L'ordre ne comporte qu'un seul et unique grade, l'insigne de l'ordre, la croix de la libération est dessinée par le capitaine des forces françaises libres qui est Tony Mella et la maquette est exécutée par la succursale londonienne du joaillier Cartier déjà à l'époque.
Et alors cette croix de la libération elle est extrêmement sobre, c'est un écu de bronze poli rectangulaire portant un glaive dépassant en haut et en bas et surchargé d'une croix de Lorraine noire. Vous aviez raison Thierry, et bien une croix de Lorraine en effet sur l'ordre des compagnons de la libération.
Quant aux couleurs du ruban, elles sont symboliques, le noir exprimant le deuil de la France opprimée par les envahisseurs, le vert exprimant l'espérance de la patrie.
Oui, voilà, Laurent, c'est en fait le de deuil et d'espérance. Voilà ce que signifient le noir et le vert. Et au revers de l'écu est inscrite en exergue la devise Patriam servando victoriam tulit. En servant la patrie, il a remporté la victoire.
Il y eut 1036 compagnons de la libération. Ils sont aujourd'hui moins de 30 compagnons encore en vie, dont le professeur François Jacob, prix Nobel de médecine, qui est aujourd'hui même d'ailleurs 92 ans.
Oui,
bon anniversaire.
Alors, sur les 1036 compagnons, il y a seulement eu 6 femmes et 72 étrangers, dont Eisenhower, Churchill, George VI, c'est le futur Mohamed V. Et surtout, 10% des compagnons de la libération, il faut le savoir, n'avaient pas 20 ans au moment de la déclaration de guerre en 1939.
Voici votre deuxième question, Thierry. Bonne chance. Combien sont tirés de coups de canon à l'occasion de la cérémonie d'intronisation du nouveau chef d'État ? 9 ou 21 coups ? Bien.
Deux, c'est bien. Allez.
Je vais dire 21.
Bravo. À l'occasion de la cérémonie d'intronisation du nouveau chef d'État, 21 coups de canon sont tirés depuis l'esplanade des Invalides. Cette tradition des coups de canon remonte à loin, Clémentine.
Oui, elle remonte à l'ancien régime. Sous la monarchie, on tirait 101 coups de canon pour annoncer la mort du roi et l'intronisation de son successeur. La naissance de l'Aiglon fut aussi saluée de 101 coups de canon tirés depuis l'esplanade des Invalides.
Dites-moi, Clémentine, quand est-on passé de 101 coups de canon royaliste ou bonapartiste aux 21 tirs républicains?
Le général de Gaulle qui, en 58, a décidé de modifier cette coutume sans pour autant la supprimer. Enfin, en 1885, il y avait déjà eu 21 coups de canon tirés depuis le Mont Valérien pour les obsèques de Victor Hugo. Pas De Gaulle non plus qui a choisi les 21.
Oui, mais pourquoi 21 par contre?
Ce choix n'est pas anodin. Ah. Il remonte au 14e siècle alors que le canon commence à devenir une arme courante. Sur les bateaux de guerre, la coutume veut que l'on tire les salves d'honneur par 7. Et ce chiffre 7, et on le pense bien, il est notamment choisi pour sa symbolique religieuse. Dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu a créé le monde en 7 jours notamment. Ouais. Alors plus la technique va évoluer, progressivement les armées de terre arrivent à tirer 3 coups de canon pour chaque coup tiré en mer. 7 x 3, 21, c'est donc 21 coups de canons qui seront finalement tirés. C'est amusant cette histoire.
Comme quoi on apprend beaucoup de choses dans le Grand Quiz des Histoires de France. Vous venez d'apprendre pourquoi 21 coups de canon. C'est ça le Grand Quiz des Histoires de France. Bravo Thierry et sa fille Mathilde. Ils sont excellents aujourd'hui. On va les retrouver dans un instant avec d'autres questions.
RTL, première radio de France.
RTL. RTL. Jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Et vous savez quoi? Avec Clémentine, on va se déplacer du côté de Marseille ainsi que toute l'antenne de RTL pour la Marseillaise de pétanque mondiale du monde de l'univers. Ça, on le fait chaque année, c'est grand rendez-vous. Donc, nous serons à Marseille en direct. Tant qu'à faire au parc Borély, inscrivez-vous. Si vous habitez la région de Marseille, région PACA, eh bien, vous faites le 32-10 dès maintenant. Mylène et Agathe vous attendent au standard, c'est en direct. Et vous vous inscrivez, vous pourrez jouer en direct avec nous.
Venez jouer avec nous, là, dans le parc Borély, là, au milieu des 17 000 boulistes déchaînés.
Mais ça vous rend dingue, ça. Je sens que ça vous rend un peu hystérique. Alors, c'est le cochonnet qui la rend hystérique.
Non, je n'aime pas jouer aux boules parce que mon mari m'engueule tout le temps. Bon, quand
dites-moi,
on joue
laissez
Manu
tranquille.
Je tire jamais ce qu'il faut, je ne pointe jamais comme il faut.
Vous allez vous calmer. Je vous rappelle que c'est le dimanche de la fête des pères.
Ah, c'est vrai. Mais, autant pour moi.
Mais je vous en prie. Dites-moi, donc il y a RTL.fr également. On peut s'inscrire toute la semaine sur RTL.fr. Alors voici ma belle pointeuse qui va commenter la question que nous allons poser dans un instant à Mathilde et Thierry, qui sont tous les deux près de Dijon avec leur bonus Romulus qu'ils peuvent utiliser à leur gré, évidemment.
Ah, c'est vrai, on l'avait oublié celui-là.
Et il y a aujourd'hui la question Ça m'intéresse histoire. Notre partenaire, Ça m'intéresse histoire, voici une question tirée du dernier opus. C'est vous qui jouez, hein, Thierry. Vous êtes prêt, Thierry?
Oui, je suis prêt.
Voici votre question. Les Illuminati, une secte qui est le sujet principal du livre de Dan Brown, Ange et démon. Eh bien, les Illuminati ont réellement existé. C'est vrai ou c'est faux?
Vous avez votre bonus, Romulus.
Je vais prendre le bonus.
Oui, allons-y.
Romulus, pardon. Ramolus.
Ramolus de Rameau. On rappelle que Rameau est né à Dijon.
C'était Ramolus.
Il est né à Dijon, Rameau, d'où le bonus Ramolus pour Dijon. Alors écoutez Thierry, vous avez utilisé votre bonus, vous avez raison. Les Illuminati, que l'on retrouve effectivement dans le bouquin de Dan Brown, Ange et démon, ont réellement existé. Eh bien c'est vrai, les Illuminati signifiant illuminés au sens de éclairés par la connaissance ont bien existé. Ils sont loin de ce qui est décrit d'ailleurs dans le roman de Dan Brown.
Parce que dans le roman et dans le film, sont des espèces de survoltés mystiques et assoiffés de sang.
Qui se flagellent à longueur de journée.
Alors les vrais Illuminati en fait étaient des francs-maçons dissidents de Bavière. Ce groupe est créé en 1776 et il prend ce nom d'Illuminati. Pourquoi? Parce qu'ils se réclament des Lumières, des philosophes et des encyclopédistes français. Ce groupe de francs-maçons est dissous en 1785 par le prince de Bavière et il n'a compté que quelques centaines de membres et pas du tout des tueurs comme on les voit chez Dan Brown. Hein.
Mais quelques années plus tard, on trouve le premier écrit faisant de ces Illuminati les membres d'une conjuration dont le but, en fait, est de dominer le monde.
Oui, ça en trouve cela sous la plume d'un abbé jésuite en 1797. Et alors, ce mythe va prendre naissance à ce moment-là. Il explique aussi la Révolution française, qui serait une conspiration contre l'Église et le roi par les francs-maçons dissidents. Et c'est ces francs-maçons dissidents qui seraient les membres d'une secte. Alors, cette
ça nous rappelle un peu l'histoire des Templiers.
Ah, ça quand même. Alors, il décrit toute la structure de la conspiration. Hein. C'est un peu le modèle, le prototype de toutes les théories du complot, domination du monde par un petit groupe d'hommes cachés, violents et plus ou moins illuminés, justement.
Au cours des siècles, on a ainsi vu fleurir des théories reprenant ce modèle pour expliquer l'évolution de notre société depuis la Révolution américaine, en fait, jusqu'à la mondialisation actuelle. Hein,
alors, si vous aimez ça, vous êtes friand de théories du complot, justement, lire On nous cache tout, d'où viennent toutes ces théories du complot dont ça m'intéresse histoire ce mois-ci.
Voici votre deuxième question. Oui. Un point pour l'ordinateur portable, c'est bien joué Thierry. Voici votre seconde question. Il existe un appel à lutter contre l'Allemagne datant du 17 juin 40. C'est vrai ou c'est faux? Un appel qui aurait été fait pour lutter contre l'Allemagne. La veille du 18 juin, donc le 17, hein, forcément. Et l'avant-veille, c'était le 16.
Je pense que c'est vrai.
Vous avez raison. Bravo.
Vous êtes fort en histoire, vous, hein?
Non, surtout en date, vous avez remarqué. C'est vrai, mais c'est pas celui du général de Gaulle, hein, qui a lieu le 18, évidemment. Ce texte est signé Charles Tillon, rédigé à Bordeaux.
Oui, c'était un appel sous forme de tract, en fait, que Charles Tillon a rédigé après avoir entendu le discours du maréchal Pétain demandant l'armistice. Et le tract de Tillon commence ainsi.
Les gouvernements bourgeois ont livré à Hitler et Mussolini l'Espagne, l'Autriche, l'Albanie, la Tchécoslovaquie, et maintenant ils livrent la France. Ils ont tous trahi.
Alors, il signait ce tract au nom du Parti communiste français, car il appartenait à ce parti, comme son épouse, d'ailleurs Germaine Tillon, qui a été déportée aussi pour fait de résistance et communiste. Et le PC avait été interdit l'année précédente à cause du pacte germano-soviétique. Et Charles Tillon est alors condamné par contumace, enfin à cause de la rupture du pacte germano-soviétique. Il est condamné par contumace à 5 ans de prison pour reconstitution de ligue dissoute.
Oui, alors il entre dans la résistance et en 1941, il crée et prend la direction du comité national militaire qui va devenir les fameux FTP, francs, tireurs et partisans.
Et Tillon, à la fin de la guerre, sera nommé ministre de l'air par Charles de Gaulle. Au début des années 50, il est écarté de la direction du PC parce qu'il n'est pas dans la ligne et il redeviendra un militant de base.
Ouais, il condamne en 1968 l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie et publie en 1970 un livre dénonçant la politique stalinienne de l'URSS, ce qui lui vaut évidemment l'exclusion du parti à ce moment-là.
En tout cas, retenir ce document d'appel à la résistance, ouais. 17 juin, et c'est Tillon.
Voici votre troisième question. Hey, 2 points pour l'ordinateur portable. Bien joué, Thierry. Hein. Bien, bien joué. Voici la troisième question. Bonne chance, Thierry. Quel nom a-t-on donné à l'affaire qui a commencé le 17 juin 1972 par l'arrestation de 5 cambrioleurs au siège du Parti démocrate à Washington?
Je pense que c'est le Watergate.
Bravo.
Nixon.
Oui, le scandale du Watergate, effectivement, car le siège du Parti démocrate se trouvait dans l'immeuble du Watergate à Washington.
Et 72, c'était une année d'élection présidentielle aux États-Unis. Mm-hmm. Nixon, républicain, se présentait alors pour un second mandat.
Les 5 cambrioleurs, en fait, sont arrêtés avec du matériel d'écoute. Et l'un d'eux se révèle être un ancien officier, membre du comité de réélection de Nixon, ancien de la CIA et du FBI. Donc...
Oui, et alors le 22 juin, Nixon déclare que la Maison-Blanche n'a rien à voir avec le cambriolage à la hoge. Et en novembre, quelques mois plus tard, il est réélu avec une écrasante majorité. Mais le journal le Washington Post ne lâche pas l'affaire et charge 2 jeunes journalistes, Woodward et Bernstein, d'enquêter.
Aidé par un mystérieux informateur du FBI, surnommé Deep Throat, gorge profonde,
Et l'affaire deviendra le scandale du Watergate et le Sénat, à majorité démocrate, crée une commission d'enquête en janvier 73. À cela vont s'ajouter d'autres scandales annexes dont certains vont obliger le vice-président Spiro Agnew à démissionner en octobre.
Alors il est alors remplacé par Gerald Ford.
Et à ce moment-là, acculé, Nixon donne sa démission le 8 août 74. C'est le seul président des États-Unis à avoir été obligé de démissionner.
Exact, mais alors Gerald Ford lui succède aussitôt, devenant ainsi le premier président à n'avoir pas été élu, hein, puisqu'il a été remplacé Spiro Agnew.
Et oui, pour compléter le tout, la première décision de Ford sera d'amnistier Nixon pour faire arrêter toutes les poursuites contre lui, ce qui n'était pas forcément...
Heureusement, parce que sinon il aurait mal fini Nixon. Il y a un très joli film que je vous invite à revoir, évidemment.
Oh, avec Robert Redford.
Robert Redford, Dustin Hoffman, et ça s'appelle Les Hommes du Président.
Oui. Woodward
Bernstein. Ça nous fait combien? Eh, l'ordinateur est gagné, Thierry.
Ouais, super.
Eh, Mathilde, t'es contente? Je suis sûr que c'est pour toi.
Ah oui, je suis très contente.
Bah tiens, il y a de quoi ma fille. Hein. Bon, l'ordinateur gagné, il y a 2 questions à venir. Ce sera pour du bonus confort pour la finale dans un petit instant. On retrouve nos amis Mathilde, 11 ans, Thierry, son papa, ils sont tous les deux à Dijon. Ils jouent sur RTL au Grand Quiz, ils ont raison. Faites comme eux, 32-10, inscrivez-vous.
RTL, Laurent Boyer, le Grand Quiz des Histoires de France.
Et vous savez quoi? Thierry et sa fille Mathilde, de 11 ans, qui habitent Dijon, nous ont tout raflé. Les livres historiques, la rousse, l'ordinateur portable, et nous, on a le sourire avec Clémentine. Ouais, les 2 questions.
Alors qu'on se fait dépouiller.
2 questions pour Mathilde tout de suite. Ça va être du bonus de confort, Mathilde, pour la finale. Est-ce que tu es prête, Mathilde?
Oui.
Alors on y va, il n'y a pas d'enjeu. Hein. Ton ordinateur portable, tu l'as, c'est fait. Écoute bien. L'empereur Frédéric Barberousse est mort au cours d'un duel avec Saladin. Vrai ou faux? Pif paf.
Amstram gram.
Pic. Cric crac, je suis dans la baraque. Bravo. Bien joué Mathilde. Mais le duel a bien existé, Clémentine.
Oui, Frédéric Barberousse, il a été couronné empereur du Saint-Empire. Le 18 juin 1155, c'est la musique de Kingdom of Heaven. Attendez, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer.
Je crois qu'on va être obligé de s'arrêter.
Non, parce que là, le réalisateur est en train de me tirer dessus, là. Alors, en 1187, Saladin est le nouveau maître de l'Égypte. Il prend Jérusalem. Hein, si vous avez vu Kingdom of Heaven avec toute la cohorte des chevaliers, des templiers qui sortent de Jérusalem. Bon, alors, bref, Saladin prend Jérusalem. Et donc, lors de la diète de Mayence en 1188, Frédéric Barberousse décide de se croiser pour aller à nouveau délivrer Jérusalem.
Laisse-moi cette musique en dessous, hein, Kingdom of Heaven. Et ce duel, alors, Clémentine?
Alors, le 26 mai 1188, avant de partir, Frédéric envoie donc une lettre à Saladin dans laquelle il le provoque en duel. Et le rendez-vous est fixé au 1er novembre 1190 en Égypte. Alors, retrouve-moi là-bas, Saladin, et là, on découvre.
Et pourquoi le duel n'a-t-il pas eu lieu?
Parce que Frédéric Barberousse, qui quitte son pays avec 100 000 hommes en 189, il passe par la Hongrie, par Byzance, il passe le Bosphore, il remporte d'ailleurs une belle victoire contre les musulmans en Anatolie, et il continue sa marche vers Jérusalem. Hélas, le 10 juin 1190, eh bien Frédéric Barberousse se noie en traversant le Salef, un fleuve au sud de la Turquie.
Il est donc mort avant d'avoir pu affronter Saladin en duel. Dommage, ça aurait pu faire un très beau film aussi.
Il aurait pu écouter la musique de Kingdom of Heaven.
Ce qu'on fait depuis.
Le pauvre gars, il a bu la tasse.
Depuis 30 secondes.
À Salef.
Allez voir ce film, hein, il est magnifique.
Oui, nous on l'a vu 15 fois chacun,
on adore ça, on adore la musique avec, on adore tout ça. Les croisades, c'est notre truc. Voici la deuxième question
on y était.
Mathilde, est-ce que tu es prête pour ta deuxième question?
Oui.
La voici. La chanson Malbrook s'en va en guerre a pour origine une bataille durant le règne de Louis XIV. À ton avis, c'est vrai ou faux?
Malbrook s'en va en guerre, ne sait qu'on reviendra.
Il reviendra zappa que Mironton, Mirontaine.
C'est vrai. Hey, aujourd'hui, il faut la piquer, hein, je vous le dis. Appelez-moi le véto, s'il vous plaît. Appelez-moi le vétérinaire tout de suite. C'est vrai, non, il s'agit de la bataille de Malplaquet.
Malplaquet.
Un affrontement décisif, en fait, dans la longue guerre de succession d'Espagne.
1709, la bataille de Malplaquet. Alors, ce conflit a ensanglanté l'Europe avec pour enjeu le trône espagnol et la domination européenne. En 1709, ça faisait déjà 7 ans que le conflit durait et la situation française était totalement désespérée, faite de défaites. En plus, hiver rigoureux en France, on en a déjà parlé, crise économique. Alors, la France, à ce moment-là, est vraiment un royaume sur le déclin, sur le point d'être envahi. C'est la fin du règne de Louis XIV et croyez-moi, la situation n'est pas rose en France.
La coalition européenne propose un traité que Louis XIV refuse certaines conditions étant inacceptable à ses yeux. Évidemment, le roi fait appel au peuple auquel il demande évidemment un dernier effort pour retourner la situation comme d'hab.
Et il obtient cet appui du peuple. On envoie une armée contre les coalisés vers les Pays-Bas espagnols. Une armée commandée par le brillant maréchal de Villars. Le 11 septembre, les belligérants se rencontrent à Malplaquet pour l'une des batailles les plus meurtrières de cette longue guerre.
Écoutez plutôt. Face aux 80 000 Français se trouvent 110 000 coalisés. Les Anglais commandés par John Churchill, duc de Malbrook, les Autrichiens et les Hollandais commandés par le prince Eugène de Savoie.
Alors au soir de la bataille, les Français sont obligés de se replier, mais ils n'ont perdu que 6 000 hommes enfin. Alors que la coalition en face en a perdu 25 000. Les coalisés doivent renoncer à envahir la France et c'est donc pour se moquer de John Churchill, duc de Marlborough, que l'on a cru, blessé ou tué, que l'on va se mettre à chanter la fameuse comptine. Quant au maréchal de Villars, et rendant compte au roi de la bataille, il lui dit
« Si Dieu nous fait la grâce de perdre encore une pareille bataille, votre majesté peut compter que ses ennemis seront détruits. »
Et voilà, la guerre de succession durera jusqu'au traité d'Utrecht en 1713, qui verra la confirmation de Philippe V, petit-fils de Louis XIV sur le trône d'Espagne, mais en échange, il doit renoncer à toute prétention pour lui ou ses descendants sur le trône de France. C'est d'ailleurs ce qui donne l'actuelle opposition entre la famille de France et ce descendant de Bourbon d'Espagne qui parle le français comme une vache espagnole, mais qui est descendant de Louis XIV en ligne directe.
Vous avez donc compris que Malbrook s'en va en guerre, vous venez d'avoir l'origine.
Malbrook s'en va en guerre, Mironton, j'aime bien les Mironton.
Vous vous rendez compte que ça date de Louis XIV quand même. Voilà, vous venez d'apprendre quelque chose, Gracogo, grand quiz des histoires de France sur RTL. Dans un instant, Mathilde et Thierry vont être là, peut-être un séjour pour 4 personnes dans un magnifique prieuré du côté de Saumur. Il y aura 1 minute 30 pour la finale et 3 questions leur seront posées. Thierry et Mathilde, concentrez-vous, on revient juste après ça.
Je suis greffé du rein, sans doute grâce à quelqu'un qui était en faveur du don de ses organes et qui l'avait dit à ses proches. Sinon, je serais peut-être pas là pour en parler. À mon avis, don d'organes, si on est pour et qu'on ne le dit pas, c'est peut-être une chance de greffe qui se perd. Donc si on est pour, mieux vaut le dire. Je confirme.
Don d'organes, pour sauver des vies, il faut l'avoir dit. Plus d'informations sur dondorganes.fr, un site de l'Agence de la biomédecine.
Dites, contre l'humidité de ma salle de bain, vous me conseillez quoi ?
Une solution placo.
Bon, et pour l'isolation thermique de ma chambre ?
Il y a aussi une solution placo.
Et le bruit du salon ? Attendez, laissez-moi deviner, placo.
C'est ça.
Et pour les ronflements de mon mari ? Placo, à chaque pièce sa solution.
Pour en savoir plus, toutplaco.com.
Placo, une marque de Saint-Gobain.
Retour du grand quiz des histoires de France, Laurent Boyer, sur RTL.
Thierry, Mathilde ont remarquablement bien joué à ce grand quiz. 32-10, si vous désirez faire comme eux, évidemment, c'est en direct, RTL.fr toute la semaine. Si vous êtes le 1er juillet en région PACA, nous sommes à Marseille. Et il sera bon de vous inscrire et jouer avec nous en direct et tout rafler. Les livres historiques Larousse, ordinateur portable ou encore le Priori que nous vous offrons aujourd'hui. Donc, un séjour pour 4 personnes quand même. Le Priori, on l'a mis sur RTL.fr, je peux vous dire qu'il est beau, hein. Ça, vous allez vous régaler, Thierry et Mathilde. Évidemment, pour cela, il va falloir répondre à 3 questions que nous vous posons. Mais grande chance à vous, vous avez une minute 30, remarquablement acquise d'ailleurs, pour pouvoir répondre à ces 3 questions. Êtes-vous prêts, Mathilde et Thierry ?
Oui, nous sommes prêts.
Vous êtes prêts, les amis ? Allez, c'est parti. De quel stratège la bataille de Ligny, le 16 juin 1815, fut-elle la dernière victoire ? Grand stratège français.
1815.
Qui est le plus grand en 1815 ? Ça va pas durer longtemps d'ailleurs.
Oh !
Dites-moi. Le petit grand homme, Little Big Man.
Allez.
Napoléon.
Bah oui. Mais oui. Bon.
Alors, qu'est-ce qui est. qu'est-ce qui est rendu public et gratuit en France par une loi du 16 juin 1881 ?
L'enseignement public.
Bravo.
Oui.
Primaire. Un 18 juin, les Français remportent une bataille contre les Anglais. Mais attention, en 1429. À quelle héroïne de l'histoire de France attribue-t-on cette victoire ? 1429, c'est qui ?
Jeanne d'Arc !
Mais voilà !
Ouais ! Super ! Ouais.
Bravo Thierry et Mathilde, 48 secondes, vous aviez 1 minute 30. Et voilà, c'est fait, c'est gagné. Vous partez écouter Feu d'artifice.
Ah, dites donc, du haut du ciel, Thibaut des Croisades peut nous tresser des couronnes. Hein, parce que ça faisait quand même 50 ans qu'on n'entendait plus le générique. Et chez nous, on y va.
À Saumur, membre de la chaîne d'hôtels de charme Symbole de France, vous partirez donc au cœur des pays, des châteaux, évidemment, au bord de la Loire. Vous irez voir sur hôtel.fr. On a mis ce priori, hein, le priori à Saumur. C'est magnifique, somptueux, vous allez voir.
Et puis alors d'ici là, si vous aimez vraiment à la fois l'histoire, le rock et Napoléon, eh bien rendez-vous le 27 juin au concert Historock, hein, pour voir Napoléon en rocker et un spectacle musical sur l'histoire de France.
C'est une très belle idée, ça, l'opéra rock. C'est un historien qui l'a fait. Hein.
Tout à fait, Dimitri Casali, qui a écrit très nombreux livres sur l'histoire de France et en particulier sur Napoléon. Toutes les infos sont sur notre site.
Napoléon, l'opéra rock. C'est quand, le 27 juin ?
27 juin, hein,
19h30. C'est où, au théâtre ?
Albert de Lapparent. Enfin, toutes les infos sont sur le site, hein, pour les amateurs de rock et de Napoléon.
Dites-moi, alors, il y a une belle info là, qu'on vient de donner, Mathilde et Thierry. C'est de quel stratège la bataille de Ligny le 16 juin 1815 fut-elle la dernière victoire ? Et ça, tout le monde l'a oublié, Clémentine.
Bah, c'est vache, parce qu'évidemment, Waterloo a oblitéré la bataille de Ligny, qui a été la dernière victoire de l'empereur. Mais enfin, malheureusement, pas suffisamment décisive, puisqu'elle n'a pas empêché Waterloo. Mais ça, c'est une des petites questions concocté par notre réalisateur qui cherche vraiment les ennuis, là, je crois. Hein.
Ah non, mais c'est la dernière grande victoire de Napoléon. Oui, attendez, le 16 juin 1815, quand même.
C'est un anniversaire.
Ah, mais oui, non, mais.
Demain, c'est l'anniversaire de Waterloo. Et dans 2 ans, oh là là, on n'aura plus qu'à se tirer une balle. Non, on ira à la reconstitution, Laurent.
Bon, moi, je pense que ça va être bien. On va le faire. Et puis, hommage également au 16 juin 1815.
Vous en grognard et moi en cantinière.
Viens, Madame Sangène.
J'arrive, Napo.
C'est l'enseignement primaire, le 16 juin 1881, date anniversaire. Aujourd'hui également, voilà, c'est pour ça qu'on vous a mis la loi Jules Ferry. Hein,
ah oui, non, on ne va pas chercher midi à 14h.
Voilà, pan. Bravo, hein, les amis, vous envoyez une petite carte postale, Thierry et Mathilde.
Oui, bien sûr.
De l'escalier en colimaçon du prieuré, ça a l'air très joli.
Ouais, il est très beau ce prieuré. Bon, les amis, on se retrouve la semaine prochaine à 13h30. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la liste préférée d'Éric Jean-Jean. Et aujourd'hui, il a l'excellent Gérard Darmon comme invité. Allez, c'est parti. En même temps, c'est la Carioca.
Vous écoutez RTL.